experts, disons, dans le spectrum de scénarios qu'on pouvait envisager, là, c'était vraiment à l'extrême. Là.
Donc, j'ai lu, Thomas, que les Iraniens ont envoyé des drones, somme toute, assez lents. Est-ce que ça, c'est confirmé et est-ce que ça veut dire quelque chose?
Oui, alors c'est confirmé et oui, ça veut dire quelque chose. Les drones qui, dans la grande majorité des cas, ont décollé à partir de l'Iran, il y en a une petite partie qui a décollé à partir de l'Irak, donc plus proche d'Israël, avaient entre 1500 et 2000 kilomètres à franchir. Et ce type de drone iranien-là, qui est assez rudimentaire, voyage à peu près à 200 km/h. Pour vous et moi, 200 km/h, c'est rapide, mais sur 2000 km pour un drone, c'est très lent. Donc, les systèmes de défense anti-aériens israéliens, qui sont extrêmement sophistiqués, ont eu plusieurs heures pour les voir venir. Pourtant, les systèmes de défense israéliens, des fois, sont habitués à réagir en quelques secondes. Quand il y a des roquettes qui arrivent du sud de Liban, par exemple, qui est littéralement la porte à côté. Alors, même s'il y en avait à peu près 200, les Israéliens avec, et ça c'est important, l'aide très précieuse des Américains, des Français, des Britanniques et des Jordaniens, ont pu envoyer des dizaines d'avions chasseurs, beaucoup plus rapides, qui ont eu amplement le temps de les identifier et de les descendre. Alors, non seulement 100% des drones ont été abattus, mais selon ce qu'on voit dans les médias, ils ont tous été abattus avant même de se rendre en Israël.
Il y a des analystes qui disent que, oui, l'Iran a déployé beaucoup de missiles, beaucoup de drones, mais qu'on voulait pas vraiment faire de dommages. Est-ce que vous souscrivez à cette thèse-là?
Non. Et ça, je pense que cette thèse-là, aujourd'hui, elle ne tient plus. Moi, j'y souscrivais avant samedi, dans le sens où je pensais que l'Iran allait vouloir faire un peu de dommages à Israël, mais pas trop, parce que, puis ça, vous et moi, on en a parlé déjà, la priorité de l'Iran, c'est toujours d'éviter une escalade et une guerre ouverte avec Israël. Parce que dans ce scénario de guerre ouverte-là, l'Iran perd. Tout le monde souffre, mais l'Iran souffre plus. Mais là, ce qu'on a vu samedi, il faut bien comprendre, là, c'était 300 missiles et drones. Alors, sur les 200 à peu près drones qui ont été envoyés, les dommages auraient été limités et, de toute façon, c'était possible de penser que l'énorme majorité, puis là, finalement, la totalité serait interceptée. Mais là-dessus, il y a eu quelques dizaines de missiles balistiques. Les missiles balistiques, c'est très puissant. Et pour se rendre de l'Iran à Israël, donc à peu près 2000 kilomètres, on parle de 12 minutes. Donc, c'est pas du tout la même ligue. Finalement, ils ont été soit interceptés, soit qu'ils sont tombés, qui ont causé très peu de dommages. Mais ça aurait pris juste 2 ou 3 missiles balistiques qui causent des dommages matériels importants ou des morts. Ça aurait pu se mesurer en dizaines ou en centaines, là. Et là, on serait sur une autre planète. Et les représailles d'Israël seraient venues littéralement immédiatement, là.
Professeur Junot, je veux décortiquer quelque chose que vous avez dit il y a quelques secondes. Vous dites que la priorité de l'Iran, ça a toujours été d'éviter une guerre ouverte avec Israël. D'abord, comment on sait ça? Comment on sait que les Iraniens ne veulent pas d'une guerre ouverte avec Israël?
Parce que, contrairement à ce que souvent on pense, qu'on entend dans certains médias, les dirigeants iraniens, c'est pas des religieux fanatiques, messianiques, apocalyptiques, suicidaires. Ils sont parfaitement rationnels. C'est une rationalité qui est différente de la nôtre. C'est une rationalité qui est extrêmement brutale, faut bien comprendre. Mais leur intérêt premier, ça demeure toujours la survie du régime. Et dans un contexte de guerre totale, c'est-à-dire que les États-Unis et Israël attaquent l'Iran, l'Iran va nous faire mal. L'Iran va faire mal à Israël, aux États-Unis, probablement à l'Arabie saoudite aussi. Mais les États-Unis, militairement, sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissants que l'Iran. Et dans un contexte d'escalade totale, les États-Unis dominent. Les États-Unis font beaucoup plus mal à l'Iran. Puis ça, vous dites comment est-ce qu'on le sait? Évidemment que c'est un régime qui est totalitaire, qui est extrêmement autoritaire, qui n'est pas transparent, mais on le voit depuis 20 ans de confrontation entre les États-Unis et Israël, surtout là, depuis 20 ans, là, depuis là, 2001-2003. À chaque fois que l'Iran provoque, pousse l'enveloppe et que la tension commence vraiment à monter, l'Iran recule. Puis souvent, l'Iran va être même le premier à reculer et va signaler ouvertement qu'il recule pour éviter cette escalade-là.
Est-ce que les Iraniens d'un côté et les Américains et les Israéliens de l'autre côté se parlent, même s'il n'y a pas de relation diplomatique entre les deux camps?
Oui, surtout entre Iraniens et Américains. Il y a toutes sortes de rapports dans les médias, non seulement sur ce qui s'est passé dans les dernières journées, mais dans les dernières années, il y a beaucoup de canaux. Alors, par exemple, les Américains, évidemment, n'ont pas d'ambassade en Iran, mais les intérêts américains sont représentés par l'ambassade suisse à Téhéran. Et on sait qu'il y a beaucoup de messages qui se passent. Il y a aussi l'Oman, qui est un petit pays là dans le Golfe Persique, un petit pays arabe, qui joue très souvent ce rôle de médiateur, ou si c'est pas de la médiation dans le sens formel, informel d'intermédiaire pour passer des messages. Le premier ministre irakien est à Washington au moment où on se parle. Il est arrivé en fin de semaine et lui aussi apparemment aurait passé des messages.
Donc, c'est une bonne nouvelle dans le fond. Écoutez, bonne nouvelle, je le mets entre gros guillemets, Thomas Junot. Il y a des canaux de communication parce que ça peut facilement déraper si on est pogné pour lire dans les feuilles de thé des destroyers.
Ça peut absolument déraper. Puis là, les prochaines heures, il y a même des rumeurs que ça pourrait se passer dès ce soir, ou sinon les prochains jours vont être extrêmement tendus, parce que Israël a très clairement dit qu'il y aurait des représailles. Sous quelle forme, on le sait pas encore. Est-ce qu'elles vont être mineures, moyennes, majeures ou énormes, on le sait pas encore. Mais du point de vue d'Israël, et là, je dis ça sans justifier ou légitimer, mais pour expliquer la logique du côté israélien, on ne peut pas ne pas répondre. Israël s'est fait attaquer à très grande échelle. De ne pas répondre, ce serait d'envoyer un signal de faiblesse que l'Iran va absolument exploiter à l'avenir.
Mais j'ai vu, Thomas, une entrevue à CNN aujourd'hui d'un ancien chef du Mossad, l'agence de renseignement israélien, qui disait « c'est pas une bonne idée de répliquer, c'est pas une bonne idée de faire des politiques basées sur la vengeance ». Donc, pour vous, c'est absolument pas plausible qu'Israël choisisse de ne pas répliquer.
De ne absolument pas répliquer, je ne crois pas. Par contre, il faut bien comprendre que le mot « répliquer », ça peut vouloir dire une très grande gamme de réponses possibles. Ça ne veut pas nécessairement dire une attaque israélienne à très grande échelle avec, comme l'Iran, des centaines de missiles dès maintenant. Ça peut être des représailles indirectes, ça peut être des représailles par des cyberattaques qui sont donc un peu plus faciles à cacher. Ça peut être des représailles pas sur le territoire iranien, comme on l'a vu souvent par le passé. Ça peut être toutes sortes de choses, et ça va probablement être ça. Alors, il y a un équilibre qu'Israël peut essayer de trouver pour éviter d'envoyer un message de faiblesse, mais pour essayer d'éviter l'escalade. C'est possible, mais c'est très risqué et dangereux, là.
En terminant, Thomas Junot, Israël faisait face à beaucoup de pression de ses alliés, dont les États-Unis, pour lever le pied dans l'offensive à Gaza. Depuis l'attaque des Iraniens, est-ce qu'on peut penser que la pression sur le premier ministre Netanyahou est beaucoup moins forte?
Absolument. Évidemment, il faut toujours comprendre que la pression diplomatique internationale sur Israël, c'est généralement pas un facteur très important dans le calcul d'Israël. À part la pression américaine, au mieux, ça pèse juste un tout petit peu dans la balance. Mais là, c'est ce que vous dites, c'est absolument vrai. On voyait dans les dernières semaines des tensions croissantes entre Biden et Netanyahou sur la poursuite des opérations à Gaza. On n'était pas rendu à un bris dans la relation entre les deux, mais les tensions augmentaient. Les tensions augmentaient aussi avec la Grande-Bretagne en passant. Il était ouvertement question en Grande-Bretagne de suspendre les ventes d'armes là à Israël. Alors que là, on a vu la Grande-Bretagne et les États-Unis travailler très fort avec Israël pour intercepter l'attaque iranienne. Alors à court terme, oui, il y a un rétrécissement là de cet espace diplomatique-là, de ces tensions diplomatiques-là entre les deux. Et ça, pour M. Netanyahou, ça doit compter comme une victoire.
Thomas, merci. C'est toujours éclairant de parler avec vous.
Merci.
À la prochaine. Thomas Junot, professeur agrégé à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. Musique au retour.
Vous vous questionnez sur votre avenir professionnel? Vous souhaitez vous réaliser dans un emploi ou un projet qui fait sens à vos yeux? Saviez-vous que l'organisme La Sphère offre une multitude de services gratuits et confidentiels pour répondre à vos besoins? Peu importe votre âge, on est là pour vous aider à y voir plus clair. Planifiez dès maintenant une rencontre gratuite avec notre équipe. Pour en savoir plus, visitez le www.lasphèredelemploi.ca. La Sphère, la fierté de choisir sa voie.
Tu es né pour l'aventure? Le Forester 2024 de Subaru est fait pour toi. La fonction X-Mode optimise la traction et t'offre une confiance accrue sur tous les terrains. Découvre ton nouveau partenaire d'aventure chez Formule Subaru à Rimouski. 93.3
Nouvelle régionale.
Voici vos nouvelles du 15 avril 2024. L'état du chemin du troisième rang du Bic à Rimouski continue de faire jaser. Des citoyens de ce secteur ont mis en ligne une pétition réclamant la reconstruction de cette route rurale délaissée depuis plusieurs décennies. Ces travaux ont été soumis à différents programmes gouvernementaux par la ville de Rimouski. Elle a malheureusement essuyé plusieurs refus. L'investissement pour reconstruire cette route se chiffre à 5 millions de dollars, selon des études préliminaires, mais la ville étudie toujours différentes options. Pour le moment, la réfection est toujours à l'étude par l'entremise des différents programmes, comme le programme d'aide à la voirie locale. Spectre Rimouski annonce l'arrivée de Gabrielle Fournier à titre de directrice générale de l'organisme. Elle prendra la relève de Jacques Pinault, qui a dirigé Spectre pendant plus de 35 ans. Selon un communiqué de Spectre, Mme Fournier est dotée de connaissances approfondies du milieu de la diffusion de spectacles. Elle a acquis au cours des années une précieuse expérience à travers une multitude de rôles et au sein de divers organismes culturels. Elle entrera en fonction en juin. Un citoyen bien connu pour son implication sociale et culturelle à Rimouski, Yvan Chouinard, estime que le Conseil régional de l'environnement est dans l'erreur en prenant position contre le projet de prolongement de l'autoroute 20 vers Rimouski. Le Conseil croit que l'intérêt public et la sécurité routière seraient mieux servis par une rénovation de l'actuelle route 132. Yvan Chouinard, pour sa part, estime que cette prise de position est étonnante alors qu'une majorité de Bas-Laurentiens et de Gaspésiens veulent sa réalisation depuis 50 ans. Il insiste en disant également que cette situation à haut risque doit être réglée et que cela passe par la réalisation de l'autoroute 20. Et en terminant, le Centre de services scolaires des Phares lance un concours pour déterminer le nom de la nouvelle école primaire de Rimouski, aussi connue sous le nom de Lab École. Cette démarche participative s'adresse aux élèves, aux parents, aux membres du personnel et à toute la communauté. L'objectif est d'avoir trouvé un nom en vue de la rentrée scolaire 2024. C'était Pierre Michaud pour vos informations. Nos nouvelles se trouvent sur cfxrimouski.com.
CFX 93, son équipe et le studio McDonald, un trio de champions. CFX FM 93. Art et spectacle. Le Québec maintenant. Voici Catherine Beauchamp. Don't take this beer.
Quand tu as eu quelques coups de cœur musicaux ces derniers temps, tu vas nous en présenter quelques-uns.
Coup de cœur et phénomène, surtout. Celui qu'on entend, c'est Benson Boone, qui a lancé un album durant les derniers jours. C'est un auteur-compositeur, interprète américain qui vient de l'État du Washington. C'est un artiste qui a commencé sa carrière sur les médias sociaux en plaçant de la musique sur TikTok. Finalement, il participe à l'émission American Idol. Il se retire de American Idol et sa popularité sur TikTok n'a fait qu'augmenter. Et là, je viens de vérifier les derniers chiffres. Il est pas loin de 7 millions d'abonnés. Tu sais, pour quelqu'un qui n'a pas fait d'album, c'est quand même immense. Alors, popularité grandissante, finit par être reconnu par Dan Reynolds du groupe Imagine Dragon. Lui, l'intègre à son étiquette de disque, Night Street. Et finalement, ils pondent un premier album ensemble.
C'est un peu comme Imagine Dragons.
Ben,
je trouve que c'est des mêmes textures.
Ça pourrait avoir une espèce de un lien de famille, effectivement. Je sais que depuis que son album est sorti, c'est comme vraiment un phénomène. Il est rendu dans les tops de vente de musique sur Apple Music. J'ai essayé de décortiquer un peu comment qu'il était musicalement. Tu sais, c'est souvent des chansons hyper langoureuses, mais c'est authentique parce que c'est lui qui les compose. Donc, tu sais, on sent vraiment qu'il sent ses chansons. Je trouve que c'est bien fait. Tu sais, il a dévancé des artistes comme Noah Kahan, qui était sur aussi dans les meilleures ventes, Jack Harlow. Et puis, sa grande chanson qu'on entendait en entrée de chronique, c'est une chanson de rupture. Évidemment, tu sais, on le sait, les ballades qui parlent de relations amoureuses, ça pogne tout le temps. Fait que des ballades sur son album, il y en a. On va en écouter une autre.
Love of mine.
Love of Mind, il parle beaucoup de vulnérabilité, de la découverte de soi, des beaux thèmes.
Des thématiques.
Des bonnes intentions.
Des thématiques pas populaires dans les podcasts masculinistes.
Tu vois, exactement, on en reparlera tantôt. Il est tout à l'envers des podcasts masculinistes. Donc, beaucoup de piano, des guitares. Ça commence vraiment bien pour cet artiste. Je le renomme Benson Boone. C'est un triomphe, en fait, avec son entrée sur le marché avec ce premier album. Et je te donne le titre parce que c'est vraiment... C'est Fireworks and Rollerblades, le titre de l'album.
Feu d'artifice et patins à jouer.
Oui, je trouve ça. On va écouter un dernier extrait.
Put them in my head right now.